France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur la consommation, sur la surconsommation d'antibiotiques. En dépit de nombreuses campagnes d'information, 30 à 50% des antibiotiques prescrits le seraient encore à tort ou de manière abusive en France. Le chiffre que j'ai découvert est absolument colossal, stupéfiant. Cette surconsommation ayant pour effet de créer des bactéries de plus en plus résistantes aux antibiotiques. On marche donc sur la tête. Le téléphone sonne ce soir pour essayer de comprendre les raisons de la surconsommation et les moyens de se servir mieux des antibiotiques, de s'en servir à bon escient.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Et vous avez trois moyens pour nous joindre, franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé Telson ou le 01 45 24 7000, le standard où l'on retrouve Edith. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Soyez la bienvenue, vous démarrez ce téléphone sonne.
Je vous remercie d'avoir pris mon appel.
Je vous en prie.
Alors, ma question est toute simple. À qui revient la responsabilité de la consommation des antibiotiques? Il me semble que pour avoir ce type de médicament, il faut aller chez le médecin pour avoir une prescription, une ordonnance. Je citais tout à l'heure au standard un exemple. Moi, je me suis déjà posé cette question il y a 30 ans parce que j'ai un fils qui a eu des antibiotiques alors qu'il était petit. On a changé 4 fois son traitement pour finalement lui faire enlever les végétations. Il n'avait pas besoin d'antibiotiques. Et aujourd'hui, on se retrouve un petit peu devant les mêmes choses. On fait des campagnes pour dire virus ou pas virus, antibiotique ou pas antibiotique, mais je crois que les antibiotiques sont bien prescrits par les médecins. Donc ce sont quand même peut-être aux médecins de revoir un petit peu leur manière de faire.
Très bonne remarque. Merci Edith d'avoir ouvert ce téléphone sonne. Claire Poyard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin, chef de service du laboratoire de bactériologie du groupe hospitalier Cochin. Ah, c'est l'assistance publique, je le dis et je le souligne. Jean-Paul Stahl, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de médecine infectieuse au CHU Grenoble-Alpes. Daniel Messager, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste santé de France Inter. Jean-Paul Stahl, que répondez-vous à Edith? Ce sont les médecins qui prescrivent les antibiotiques et qui les prescrivent donc mal ou trop?
Alors, madame a raison, mais pas complètement raison. Elle a raison parce qu'effectivement, la personne qui signe l'ordonnance est un médecin, mais le médecin est dans un dialogue avec son patient. Et donc, il y a à la fois une responsabilité médicale et à la fois une responsabilité du patient.
Alors, refaites-nous le dialogue.
Proportion.
Docteur, j'aimerais bien des antibiotiques. Mais non, ça ne sert à rien pour ce que vous avez. Mais oui, mais quand même, je préférerais. C'est ça le dialogue ?
C'est souvent ça le dialogue. Et dans mes jeunes années, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. Dans mes jeunes années, je l'ai expérimenté quand je faisais des remplacements de médecine générale avant d'être spécialiste en médecine infectieuse.
Et vous disiez, bon bah d'accord, allez, je vous signe l'ordonnance, même si je sais que ça sert à rien.
Disons que la pression peut être suffisamment forte et installer le doute dans l'esprit du praticien. Parce que la vraie question, c'est... Oh, personne n'est pervers. La vraie question, c'est de prescrire sans inquiétude. Ou ne pas prescrire sans avoir d'inquiétude. D'où l'importance de la mise à disposition pour les médecins de tests utilisables, faciles, et qui leur permettent une meilleure certitude dans leur non-prescription.
Donc là, si je comprends bien, il peut y avoir surprescription par hyper-principe de précaution, c'est ça ?
C'est un peu ça.
On va passer à la sulfateuse et aux antibiotiques, tout le terrain, comme ça au moins s'il y a un problème, il sera couvert.
Si jamais, il y aura une couverture.
Sans parler de choses plus prosaïques qui est « je peux perdre mon client ».
On peut
On
peut aller jusque-là pour
mais
pour
il peut y
certains,
avoir du consumérisme médical.
Effectivement. Mais je voudrais quand même souligner qu'il ne faut pas mettre les choses sur le plan de la responsabilité, donc de la faute de quelqu'un. Absolument tout le monde est responsable, c'est-à-dire participe à cette surprescription, mais c'est la faute de personne au sens... surtout pas judiciaire du terme.
Daniel Messager.
Alors Nicolas, puisque vous êtes très fort pour faire les dialogues comme ça, les petites scénettes, je voudrais que vous fassiez la scénette de la vache qui demande à son vétérinaire une prescription d'antibiotiques. Puisque parmi les, entre guillemets, responsables, puisqu'on va dire que, voilà, comme vous le dites, monsieur Stahl, il n'y a pas forcément un responsable.
Les vaches aussi veulent des antibiotiques. Ou en tout cas, on leur en donne.
Surconsommation d'antibiotiques, et on va en parler au cours de l'émission, il y a une très forte consommation chez les animaux, et ça, c'est bien les vétérinaires qui les prescrivent, et ce n'est pas les animaux qui les ont demandés.
Claire Poyard.
pour revenir sur
pas des bœufs, mais
non, mais pour revenir sur ce que vous venez de dire, c'est tout à fait vrai que la prescription et la surprescription des antibiotiques en médecine vétérinaire, elle a également contribué, et ça depuis longtemps, et on le sait depuis longtemps, et on a des exemples parfaitement démontrés. Et cette surconsommation d'antibiotiques en médecine vétérinaire, elle a été introduite par des effets de productivité, et pour faire grossir ces animaux et pour sur à des fins industrielles. Donc on se retrouve dans une logique de productivité avec des effets collatéraux qui sont absolument désastreux pour la médecine humaine.
Voilà, on s'était aperçu que les antibiotiques donnés à petite dose faisaient grossir l'animal, donc on les utilisait un peu comme des compléments alimentaires.
Et c'est justement parce qu'on les a utilisés comme des compléments alimentaires que à petite dose, les antibiotiques favorisent l'émergence de bactéries résistantes par des mécanismes. Il n'y a pas plus facile pour une bactérie en termes d'évolution pour devenir résistante.
On retourne au standard. Il y a énormément d'appels ce soir. Bonsoir Jean.
Bonsoir.
Vous êtes pharmacien?
Oui, biologiste.
Bravo.
Je voulais un peu tempérer, et je vous remercie de me donner la parole, un peu tempérer vos propos, monsieur Demorand, dans la présentation de cette émission. Il y a, et je vous renvoie pour cela au rapport de la NSM de 2014, on enregistre entre 2000 et 2013 une diminution de la consommation d'antibiotiques en France, diminution très nette jusqu'en 2010, avec une reprise à hauteur de 6% depuis 2010. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous nous heurtons à une absence depuis une vingtaine d'années, à une absence d'efforts de recherche dans le domaine des nouvelles molécules. D'autre part, de nombreuses molécules ont disparu, ce qui a eu pour corollaire de favoriser la vente des génériques. Et à l'heure actuelle, dans des grands CHU parisiens, il existe un certain nombre de malades que l'on ne peut pas soigner et dont on se préoccupe par stimulation de leur système immunitaire, car ces malades sont devenus multirésistants. Mais nous payons 20 ans d'absence, et j'en discutais avec une amie chercheur à l'Institut Pasteur, 20 ans d'absence, malgré le projet européen qui est COMBACT, 20 ans d'absence et d'efforts de recherche dans le domaine de l'antibiothérapie. Et ce qui, il y a eu un gros effort dans le domaine des molécules antivirales, mais ce qui a complètement effacé tout effort dans le domaine de l'antibiothérapie. J'étais à l'ECMI, de congrès européen des maladies infectieuses à Amsterdam cette année, les efforts, les présentations sur les nouvelles molécules étaient totalement inexistants.
Merci Jean, merci. On va faire circuler la parole ici en studio, Jean-Paul Salles, sur la courbe que décrivait notre auditeur. Est-ce que vous pouvez l'expliciter?
Alors la courbe, effectivement, elle s'explique peut-être pas en totalité mais en partie par l'introduction des tests de diagnostic rapide dans les angines. Ce qui fait que la consommation des antibiotiques chez les enfants a diminué, mais parallèlement, on a vu repartir la consommation ou remonter ou s'exprimer la consommation chez les personnes plus âgées.
Vous pouvez expliquer ces tests rapides?
Alors, c'est des tests qui sont à disposition du médecin et qui sont fournis par la Sécurité sociale, qui sont gratuits pour le médecin, qui ne sont pas facturés aux patients et qui permettent de savoir si l'angine a pour responsabilité une
bactérie.
C'est
les rouges ou blanches, c'est ça?
Voilà, les fameuses angines, ou à plein blanc, à point blanc, comme disaient nos grands-mères.
Oui, oui.
Et ces angines, pour savoir si elles sont bactériennes, donc si elles méritent, entre guillemets, une antibiothérapie, ou si au contraire, elles sont d'essence virale.
Vous vouliez dire un mot, Claire Poyard?
Oui, je voulais insister sur effectivement le fait que les bactéries, enfin la résistance aux antibiotiques, enfin il y avait eu une diminution de la résistance aux antibiotiques qui avait été corrélée d'une part au fait que, comme le dit Jean-Paul Stahl à l'introduction, ces tests de diagnostic rapide qui ont fortement favorisé grâce à des grande campagne de communication, et vous avez tous en mémoire des spots publicitaires où on disait les antibiotiques c'est pas automatique, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté de façon brutale pour des raisons multiples et variées, donc on voit pas, qui sont pas à moi d'expliquer. Mais globalement, à chaque fois qu'on arrête ce type de communication,
ça repart.
D'accord. Et donc là, on met un accent, et il y a des directives du ministère et de madame la ministre qui vont faire, et on l'espère, repositionner ces campagnes de communication, et également des actions vis-à-vis, comme le dit Jean-Paul Stahl, sur les tests de diagnostic rapide. On a à l'heure actuelle des technologies qui vont nous permettre très rapidement de faire d'une part la détection de ces bactéries et d'autre part des mécanismes de résistance.
Espérons que le téléphone sonne contribuera à ce cercle vertueux. Daniel.
Alors, l'auditeur faisait référence effectivement à une absence de recherche depuis 20 ans, ce qui est le cas. Ce que je voudrais savoir, je voudrais avoir votre avis sur, est-ce que c'est au laboratoire privé uniquement qu'incombe cet effort de recherche? Et effectivement, ils ne le font plus parce que peut-être que l'antibiothérapie, c'est quelque chose qui ne rapporte pas assez par rapport à d'autres médicaments. Est-ce que les États ne sont pas trop un peu déchargés sur eux et n'auraient pas dû investir sur des fonds publics un peu plus importants pour relancer cette recherche sur l'antibiothérapie?
Jean-Paul Stahl.
Alors, n'étant pas encore président de la République, je me garderai de faire un programme là-dessus. Néanmoins, il y a une part de vrai, effectivement. Cependant, il faut quand même rappeler que les antibiotiques ont été inventés par du secteur privé, exclusivement privé, et développé et distribué très largement dans le monde par des laboratoires pharmaceutiques qui ont la puissance à la fois de recherche et à la fois de commercialisation, puisqu'il faut bien en polyesterme, de commercialisation jusque dans les contrées les plus reculées. Qu'il y ait par ailleurs une recherche académique qui cherche à identifier de nouvelles cibles bactériennes pour des nouvelles molécules. Par exemple, je prends un exemple que Claire Poyard relèvera certainement, par exemple des molécules qui iraient inhiber le gène dans la bactérie qui est responsable du mécanisme de résistance. Donc ça, ce sont des hypothèses, des prospections, mais qui sont loin d'être utopiques. Cependant, pour l'instant, c'est vrai que les laboratoires pharmaceutiques n'investissent pas dans la recherche, n'investissent plus, parce que les antibiotiques ne sont pas rentables.
Claire Poyard.
Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Jean-Paul Stahl. C'est effectivement, on a assisté jusqu'à la fin des années 80 à effectivement l'éclosion de la quasi-totalité des molécules. Et depuis, il n'y a quasiment plus de mise en place, de mise sur le marché de nouvelles molécules.
Donc c'est 35 ans. Ça fait 35 ans.
À peu près 35 ans. À peu près 40 ans. Et les seules modifications sont été des modifications biochimiques pour élargir le spectre d'activité de ces molécules, donc les rendant plus larges, probablement aussi contribuant à la diffusion de bactéries multirésistantes, puisqu'on les a prescrites un peu largamanu dans des indications qui n'étaient pas forcément des plus ciblées. Et à l'heure actuelle, on se retrouve avec une problématique forte qui est, même si on développe des antibiotiques, les mettre en place et faire des essais cliniques pour assurer de leur innocuité, de l'absence d'effets secondaires et de leur mise sur le marché, entre la création d'un antibiotique et sa mise sur le marché, il va falloir au moins 10 ans. Donc on est véritablement là dans un laps de temps, et je dirais au fond du trou, sur le développement.
La parole aux auditeurs de France Inter. Bonsoir Isabelle.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Alors moi je suis médecin généraliste et puis donc voilà, en ce qui concerne les prescriptions d'antibiotiques, il faut savoir qu'on est fiché par la sécurité sociale en fonction de nos prescriptions, qui nous donne nos prescriptions régulièrement. Et nous dans notre cabinet, on fait partie, nous dit-on, parmi les plus petits prescripteurs d'antibiotiques dans notre département. Et pourtant, on ne fait juste que respecter les recommandations officielles. Donc, c'est étonnant d'entendre que
et comment ça se passe
énormément.
Comment ça se passe, Isabelle, avec vos patients? Le
très,
dialogue
très bien.
Est
on
simple
fait de la pédagogie. Et ils comprennent très bien quand on leur explique que les pathologies, en règle générale, sont surtout les pathologies diverses, sont d'abord virales et que ça se surinfecte pas systématiquement. Donc, ça, ils comprennent très bien. On a aussi à disposition les tests diagnostiques rapides pour les angines. Pour le reste, on peut attendre. Et puis évidemment, quand on juge que c'est nécessaire, on en met. Mais ça se passe très très bien. Les gens comprennent très bien. Enfin, ça arrive jamais que les gens nous supplient de leur en prescrire.
le chantage à l'antibiotique.
Non, ça fait très longtemps que ça n'est pas arrivé.
Voilà. Écoutez, merci pour ce témoignage venu donc du cabinet d'un médecin du Morbihan. Un mot, Jean-Paul Stahl.
Non, on peut que saluer la qualité de la démarche et effectivement et souligner que malheureusement ce n'est pas la démarche de la majorité, mais là encore il y a pas de faute, hein, je veux vraiment insister là-dessus. Il y a pas de faute, il y a certainement une histoire générationnelle aussi. C'est-à-dire que les plus jeunes ont reçu cet enseignement sur l'épargne antibiotique que les plus anciens n'ont pas reçu parce que à l'époque on connaissait beaucoup moins ce genre de problème.
Daniel Messager, puis quelques questions par courrier électronique.
Et est-ce que ce n'est pas dans les hôpitaux qu'on a la prescription un petit peu plus lourde ? Je lisais dans un rapport que, par exemple, en prophylaxie, en amont d'une opération chirurgicale, on va prescrire des antibiotiques. Normalement, on doit les prendre que 24 heures et puis on essaie de faire un peu plus attention. On se dit on va quand même couvrir davantage. Donc, de 24 heures, ça se transforme en 3 ou 4 jours. Les messages passent bien dans les hôpitaux où on se dit que finalement, on a des malades peut-être un peu plus lourd et qu'on veut se couvrir un peu plus.
C'est un petit peu plus compliqué que ça. En termes de quantité de prescription, 90% des antibiotiques prescrits en France le sont en médecine de ville. 10% dans les hôpitaux. Mais 4 malades sur 10 hospitalisés reçoivent des antibiotiques. Donc, vous avez à la fois raison et tort. Ça dépend par quel côté on regarde. Ce qu'il faut bien voir, c'est que maintenant, dans les hôpitaux, grâce à des implications importantes à la fois des pouvoirs publics et des sociétés savantes, il faut le dire, et tout particulièrement la société de pathologie infectieuse et la société de microbiologie, se sont constituées dans les hôpitaux des équipes qui permettent de donner des conseils. Parce que c'est pas toujours simple pour prescrire comme il faut faire un diagnostic précis, il faut avoir envisagé plein de paramètres, et donc pour aller donner des conseils auprès de confrères qui ne sont pas spécialisés. Là où il y a un problème actuellement, c'est la correspondance entre ces équipes hospitalières et le comportement en ville, où là il y a quelque chose à inventer pour aider les médecins en ville, libéraux et dans les cliniques, pour améliorer le comportement.
Alors, on va faire économiser à la Sécurité sociale une consultation. Bonsoir, mon dentiste me prescrit des antibiotiques en préventive avant une intervention pour pose d'implant. Est-ce nécessaire ? Demande Sylvain des Alpes-Maritimes.
Là encore, il faut voir quelles sont les conditions sous-jacentes. C'est-à-dire, est-ce que la personne à qui on prescrit a une valve cardiaque qui pose un problème ? Auquel cas, on peut effectivement discuter une prophylaxie pour éviter une infection de cette valve. Est-ce que c'est une personne immunodéprimée pour X raisons, avec je ne sais quel traitement ?
Donc, il y a oui, plein de conditions. Besoin.
Oui, si besoin, et un oui ciblé.
Oui, allez-y.
Et on peut dire que globalement, toutes ces procédures font l'objet de recommandations issues des sociétés savantes qui sont également disponibles sur le site internet des sociétés savantes. Et donc, les choses sont quand même bien codifiées.
Question de Christian de Bretagne. Pourquoi la France ? Pour quelle raison y a-t-il une telle différence entre la consommation en France et dans les pays voisins, Jean-Paul Stahl ?
Alors là, il y a une forme de mystère, effectivement. Il y a une culture.
Il y a pire aussi.
C'est comme au football, oui. On n'est pas champion d'Europe, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Néanmoins, il y a sans doute une culture et peut-être, l'organisation du système de santé en France qui fait, alors vous avez utilisé tout à l'heure et vous avez été reprise le mot de client, mais il n'empêche que le patient paye.
C'est moi qui l'ai envoyé.
Voilà, le patient paye quelque chose et en retour, le médecin a la tentation de dire il faut que je donne quelque chose pour l'argent que j'ai reçu. C'est
quoi,
une explication.
Le mot n'était pas si mal choisi.
C'est une explication. Je ne suis pas compétent pour en discuter la validité, mais elle est souvent avancée.
Allez, on repart au standard. Bonsoir Anne.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Fougères. Soyez la bienvenue.
Oui, je voulais poser une question parce que actuellement, pour traiter les schistites, on propose aux patients des antibiotiques qui fonctionnent bien. Le problème, c'est que il y a des récidives de schistites et ça devient si fréquent qu'on peut se retrouver à enchaîner les prises d'antibiotiques. Donc, on varie les antibiotiques. Donc, ça peut nous entraîner sur des durées de prise vraiment longues. Et donc, je me demandais s'il y avait des alternatives aux prises antibiotiques pour des pathologies fréquentes, mais pour le moment, on ne nous propose que ça.
Merci pour cette question précise, Jean-Paul Stahl.
Ah bah la première des questions à se poser quand il y a un phénomène anormal comme celui-là, c'est de se demander pourquoi. Donc, pourquoi ces récidives? Est-ce qu'il y a des raisons sur lesquelles on pourrait intervenir qui expliquent cette récidive? Alors, au bout de l'exploration, on peut arriver effectivement à des facteurs qui peuvent être... Alors là aussi, avec beaucoup de précautions, qui peuvent être génétiques et qui expliqueraient la facilité qu'ont certaines bactéries pour adhérer à l'épithélium urinaire. Et à ce moment-là, dès lors qu'on touche à la génétique, ça devient compliqué.
Claire Poyard.
Je peux juste insister sur un conseil, c'est compte tenu du fait que vous avez des récidives d'infection urinaire, que l'analyse et l'examen et l'identification des bactéries qui sont responsables de votre infection urinaire doit absolument être faite pour adapter l'antibiotique qui va être incriminé dans votre responsable de cette infection urinaire. D'où la nécessité, effectivement, là encore, d'avoir des possibilités de diagnostic rapide, éventuellement chez le médecin ou dans des petits systèmes de biologie délocalisés qui vous permettront et qui permettra au système de santé de faire un diagnostic et une antibiothérapie adaptée.
Merci d'écouter France Inter, 19h42.
France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Et le téléphone sonne continue en compagnie de Claire Poyard, médecin chef de service du laboratoire de bactériologie. Vous incarnez à ce micro l'assistance publique. Jean-Paul Stahl est également avec nous, professeur de médecine infectieuse au CHU Grenoble-Alpes et Daniel Messager, spécialiste santé de France Inter. Bonsoir Marie.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Alors, merci. Ma question concerne la prévention. En fait, suite à un fond asthmatique, j'ai tendance à faire des surinfections à chaque petit épisode ORL, donc ça descend en bronchite. Un hiver, il y a quelques années, je suis arrivée à 6 prises d'antibiotiques entre octobre et mars. Donc, je me suis mise à prendre des probiotiques en prévention et en début d'infection des huiles essentielles. Ça semble bien fonctionner, mais ma question était, y a-t-il des études à ce sujet, voilà, qui permettraient rendre plus assurer une prescription de
alternative, alternative aux antibiotiques. Donc, merci Marie pour cette question. Alors peut-être un point de précision sur les probiotiques, les huiles essentielles. On voit vaguement, mais
probiotiques, ce sont des bactéries qui ne sont pas pathogènes pour l'homme et que l'on donne dans l'idée de rééquilibrer les flores résidentes à l'intérieur de l'organisme. Les huiles essentielles, j'avoue que je ne suis pas un grand spécialiste des huiles essentielles. Néanmoins, l'important, c'est que ça marche. Pourquoi pas? Mais il n'y a aucune étude, selon les normes scientifiques actuelles, qui permettent de dire oui, ça marche ou non, ça ne marche pas. Ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'il faut faire très attention à l'administrer, ce genre de thérapeutique alternative, aux bonnes personnes et ne pas rater la gravité potentielle et ne pas dire « Ah ben je veux pas donner d'antibiotiques parce qu'on m'a dit qu'on en prescrivait trop » et puis pour le coup, déclarer derrière une infection grave. Donc là, il y a un examen et un diagnostic précis qui doivent être faits avant ce genre de prescription, mais après... Pourquoi pas? De toute façon, dans les bronchites, il est parfaitement démontré, dans les bronchites aiguës et même les surinfections de bronchites chroniques, il est parfaitement démontré que le meilleur traitement, c'est le kinésithérapeute qui aide à expectorer.
Diane, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, ma question était assez simple. Pourquoi aujourd'hui encore on attend pour que les laboratoires puissent peut-être s'intéresser de plus près à la phagothérapie, donc qui a été découverte en France et qui n'est pas nouvelle puisque cela date de 1917 et dont on sait aujourd'hui bien sûr tous les bienfaits et d'ailleurs tous les pays du bloc de l'Est, tout l'Est utilise aujourd'hui cette thérapie, que ce soit pour une angine ou même un staphylocoque, toutes les maladies nosocomiales, tout ce qui est bactérien, en fait, pourrait être soigné et traité de façon très peu coûteuse. Voilà, donc ma question est pourquoi les laboratoires ne s'intéressent-ils pas à la phagothérapie?
Merci Diane. Explication et réponse, Claire Poyard.
Alors je voudrais juste un petit peu modérer vos propos concernant les affirmations que vous dites sur l'efficacité indiscutable de la phagothérapie. Certes, juste pour expliquer un petit peu aux autres auditeurs ce que c'est que la phagothérapie c'est en fait les phages et sont les virus des bactéries. En d'autres termes, vous avez un virus qui va être spécifique d'une bactérie donnée. Toute la problématique concernant la phagothérapie, donc effectivement, si vous avez le bon phage pour la bonne bactérie qui va vous infecter, vous allez effectivement traiter votre infection par ce virus bactérien.
Cannibale, c'est, comme on dit.
C'est pas un cannibale destructeur. Je dirais, il va détruire la bactérie, il va la faire exploser et elle sera détruite. Et donc, effectivement, on aura une liste de la bactérie. Et par cette infection... cette infection virale spécifiquement ciblée sur la bactérie. Mais d'une part, il faut que, à l'heure actuelle encore, les phages sont, il va falloir se fixer de façon spécifique sur une espèce bactérienne. Il y a un récepteur qui lui est spécifique. À l'heure actuelle, on n'a pas encore de phage universel capable de tuer toutes les bactéries. Donc il faut non seulement connaître la bactérie qui vous infecte et non seulement avoir le phage et le bon phage. Donc on peut avoir des cocktails et effectivement c'est des thérapeutiques qui ont été utilisées, qui peuvent être utilisées et qui peuvent avoir leur intérêt dans des infections chroniques. Mais à l'heure actuelle, et c'est faux de dire qu'il n'y a pas de recherche en France sur la phagothérapie, il y a des équipes tout à fait spécialisées à Pasteur qui font leur recherche sur la phagothérapie. Il y a des essais en France qui sont réalisés et donc j'espère que d'ici quelques années on aura effectivement la preuve formelle et les bons outils pour traiter des infections bactériennes.
Mais c'est un domaine d'avenir.
C'est un domaine qu'on ne peut pas...
Ou un continent à explorer.
Alors c'est un domaine certes d'avenir pour lequel il reste des garanties à avoir et des connaissances à approfondir, mais c'était véritablement une voie de recherche à explorer.
Daniel, un mot ?
Ce que je voudrais savoir, c'est sur quel type de maladie ça peut agir, effectivement, ces phagothérapies. On est là dans des impasses, parfois, concernant la tuberculose, concernant certaines maladies, et on se dit, est-ce que ça peut être un moyen ou il y a des maladies sur lesquelles on sait que ça ne pourra pas agir ?
Jean-Paul Salle. La théorie, oui, comme vient de le dire Claire, il y a une spécificité entre un phage particulier et une bactérie particulière. Donc si le phage la bactérie responsable de la tuberculose existait, par exemple, pourquoi pas. Cependant, c'est inapplicable à, je dirais, facilement 80 à 90% des prescriptions en première intention, c'est-à-dire qu'on prescrit des antibiotiques devant un malade que l'on soupçonne d'avoir l'infection X, Y ou Z, mais sans avoir, au moment où on prescrit, l'identification de la bactérie. Donc la prescription de première intention, c'est une analyse clinique et qui s'accrémente de raisonnements épidémiologiques, etc. Donc on ne pourrait pas, même si on les avait à disposition, on ne pourrait pas les prescrire tout de suite. Donc c'est beaucoup plus facilement adapté, effectivement, aux infections chroniques où la bactérie est déjà identifiée depuis longtemps.
Encore un mot de Claire Poyard et puis Frédéric.
Donc peut-être une des indications potentielles, c'est des infections chroniques chez des patients particuliers, et en particulier des patients et certains patients qui ont soit des bronchites chroniques avec des bactéries qui les colonisent, soit par exemple les patients atteints de mucoviscidose que l'on sait coloniser de façon au long cours avec des souches bactériennes particulières pour lesquelles on a le temps d'identifier le phage et qui pourrait être traité par ces alternatives thérapeutiques.
Frédéric, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
Merci. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'on consommait beaucoup d'antibiotiques par le biais de notre...
Ah, alors on vous entend plus. Essayez de ne pas bouger, Frédéric, quand vous téléphonez. Vous devez nous appeler d'un portable. Alors, recommencez.
Bon. Vous avez évoqué le sujet des antibiotiques qu'on ingère dans l'alimentation à cause des élevages intensifs, pisciculture ou viande. Est-ce qu'on sait quantifier ça et qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça ?
Merci Frédéric pour cette question. Alors le circuit des antibiotiques à travers les aliments, Jean-Paul Salle, comment ça se passe? Est-ce qu'on les ingère ou pas?
Les antibiotiques sont donnés aux animaux et la sélection de bactéries se fait chez l'animal. Après, quand l'animal est préparé pour la consommation, il y a un délai important, souvent, entre le moment où il a ingéré des antibiotiques et le moment où on le consomme, avec en plus, le plus souvent, une cuisson. Donc tout ça conduit à une inactivation, je dirais, dans facilement plus de 95% des cas, une inactivation des molécules, qui sont des molécules fragiles et qui ne supportent pas d'être ainsi traitées.
Donc on n'avale pas d'antibiotiques.
On avale les bactéries qui ont été sélectionnées par chez l'animal, éventuellement. Mais on n'avale pas l'antibiotique, ou vraiment dans des quantités extraordinairement faibles.
Daniel ? Il
faut noter qu'il y a eu quand même un gros effort de fait chez les vétérinaires, puisque je crois qu'en l'espace de moins de 10 ans, la consommation animale a baissé d'environ 20%.
Ou même plus que ça dans certaines espèces, dans certaines filières.
Oui. Comment on fait quand on... Parce qu'auparavant, un animal était malade, on traitait tout le troupeau en gros. Est-ce qu'on continue encore ce type de pratique et est-ce que c'est possible d'éviter ce type de pratique ?
Il faut là aussi se remettre dans un contexte, c'est-à-dire que l'élevage industriel, de par la proximité des animaux, conduit à des épidémies qui ont un coût économique extrêmement important, d'où des prescriptions d'antibiotiques dès la première pathologie, voire en prévention. Donc ça, c'est une chose. Alors on pourrait changer ça avec un conditionnement différent des animaux. C'est-à-dire, c'est des étables où il y a plus d'espace, etc., etc. Ce qui revient à dire que c'est économiquement coûteux, bien sûr, mais pas impossible. Mais ce qui revient à dire aussi qu'on se situe là dans une société de luxe, où on peut se permettre ça. Mais si on va en Inde, si on va en Chine, où la sélection des résistances antibiotiques est énorme, ils n'ont pas les moyens de se payer ça. Et eux, leur première nécessité, c'est de manger. Et c'est pas de prévenir la résistance aux antibiotiques. Pour même énormément de ces populations, le problème, c'est d'avoir accès aux antibiotiques pour être traité. C'est pas du tout le raisonnement que nous avons, nous. Donc, il y a un vrai problème qui est beaucoup plus vaste que simplement je prescris pas.
Bastien, bonsoir.
Bonsoir Nicolas Dumont.
Vous nous appelez de Valence, vous avez la parole.
Tout à fait. Déjà, merci beaucoup à Nicolas de poursuivre la belle aventure du téléphone sonne qui est à peu près mon âge, si je me trompe pas.
Vous avez quel âge?
Moi, je vais avoir la quarantaine l'année prochaine. Et oui, c'est pas facile.
Eh ben oui, c'est ça. Et moi, j'en ai 45, on pourra en parler hors antenne.
On en parlera à Paris. j'appelais juste pour témoigner. Vous avez parlé, enfin, c'était plutôt pour souligner l'effet générationnel. Et j'ai l'impression que c'est important. Enfin, du moins de mon point de vue et du point de vue de mon entourage et des amis que je peux avoir. Quand vous avez parlé de génération tout à l'heure, je me suis vachement senti concerné parce que moi je me vois de l'autre côté de la publicité, c'est-à-dire vraiment c'est pas automatique, mais on n'a pas envie que ce soit automatique. Non pas qu'on est contre les antibiotiques, ils ont leur utilité à plein d'endroits, et le monsieur vient de parler d'ethnocentrisme quand nous on en parle effectivement, en Inde ils se posent peut-être pas les mêmes questions, mais nous effectivement je trouve que bon, quand on va chez le docteur, on essaye de faire un pré-diagnostic pour se dire, bon, ben, il n'y en aura peut-être pas besoin, on n'en a pas envie, quoi.
Bastien, vous parlez de vos enfants, là?
Oui, je parle de mes deux filles, parce que, bon, moi, je suis pas souvent malade, et puis voilà. Mais je parle surtout de mes deux filles qui ont 2 et 5 ans, qu'on traite, ils sont régulièrement malades, comme tous les enfants de cet âge-là, des rhumes, des machins, des otites. C'est vrai que sur les otites, régulièrement, on les a traités avec de l'antibiotique. On nous a appris récemment qu'il y avait un autre traitement, hors antibiotique, on ne le savait pas. Nous, on essaye de trouver à chaque fois la parade quand elle est possible et quand ça ne met pas en danger nos filles, bien entendu.
Bien sûr, et l'antibiotique en dernière instance. Bah écoutez, bienvenue dans la quarantaine, Bastien, et merci pour cette question.
À très bientôt sur Paris, j'ai retenu en micro.
Ah bah venez. 116 avenue du Président Kennedy. Jean-Paul Stahl, question de génération, c'est vous qui, ou Claire Poyard, c'est vous qui soulignez tout à l'heure l'idée que c'était aussi peut-être une question de génération, les antibiotiques, le recours aux antibiotiques.
C'est toujours, on sait qu'une recommandation, quand elle est élaborée par une société savante, elle met entre 5 ans minimum, voire plus, pour être appliquée dans la routine. Et on en est même à dire que les recommandations ont une utilité majeure pour aider l'enseignement. C'est-à-dire que leur efficacité, c'est à partir du moment où les étudiants viennent sur le marché de la prescription, si on peut appeler ça comme ça. Et compte tenu, alors ça, c'est explique que bien entendu, les recommandations sont le mieux appliquées par les plus jeunes. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, pourquoi est-ce que les plus anciens ne les appliquent pas ? Mais c'est parce que la formation continue dans notre pays est misérable. Là aussi, il faut dire les choses comme elles sont. Malgré des incitations importantes, la formation continue ne remplit pas son rôle pour l'instant en médecine. Et j'entends aussi bien dans les hôpitaux que dans la médecine de ville.
Allez, pour terminer ce téléphone sonne, on file au Pays Basque. Bonsoir Gaëlle.
Oui, bonsoir. Donc moi, je suis généraliste aussi.
Oui.
Et je voulais rebondir sur les propos de ma consoeur de Bretagne qui disait qu'elle était une petite prescriptrice d'antibiotiques. Donc moi aussi, effectivement, grâce au relevé de la Sécu, je le sais. Mais je voulais préciser que ça prend beaucoup plus de temps de ne pas prescrire d'antibiotiques que d'en prescrire. Parce qu'effectivement, comme elle disait, il faut faire de la pédagogie. Mmh. Donc on passe alors sur une rhinite, c'est vrai que c'est une consultation qui ne doit pas prendre beaucoup de temps, mais on passe du temps pour expliquer pourquoi je ne vous prescris pas d'antibiotiques, comment va évoluer votre pathologie et tout ça. Souvent, donc les gens nous écoutent, mais quand même ils sont inquiets, ils reviennent 3 jours plus tard, et là de nouveau on explique, oui mais vous savez, je vous ai dit, ça va durer une semaine et tout ça. Donc c'est beaucoup plus facile, je pense, pour certains médecins qui n'ont pas envie de se poser de questions, de prescrire les antibiotiques, allez hop, c'est plié, que de ne pas prescrire. Ça prend beaucoup plus de temps de ne pas prescrire et d'expliquer aux patients pourquoi on ne le fait pas.
À quoi ça tient ? Merci Gaëlle. La question du temps, cruciale donc, Claire Poyard.
Moi je ne suis pas... je suis plutôt biologiste et donc confrontée aux prélèvements qui nous sont envoyés. Mais je sais que effectivement c'est un problème majeur et c'est, je veux dire, en région parisienne, compte tenu de la démographie médicale, c'est, je dirais pas la solution de facilité, mais effectivement il faudrait faire le temps imparti d'une consultation pour une angine doit pas être le même forcément dans toutes les régions de la France.
Jean-Paul Salle.
Oui, notre confrère a parfaitement raison et elle a parfaitement mis le doigt sur un des problèmes essentiels.
On dit consoeur, non ?
Ou consoeur. Oui, c'est voilà. Bon, on va dire concert. Et ça met le doigt sur un autre aspect qui est la valorisation de la prévention dans le système médical en France. Et c'est vrai que les médecins généralistes, qui sont un des piliers de cette action de prévention, n'ont aucune valorisation à faire correctement cette action. Et ça, c'est fort dommage.
Jean-Paul Stahl, merci. Claire Poyard, merci également. Daniel Messager, merci pour ce téléphone sonne consacré aux antibiotiques. Vous étiez très nombreux ce soir au Standard d'Inter.